À voix nue. Toute cette semaine, Martin Kenéen rencontre Simone Schwarzbart. Ce soir, parmi les reines sans nom.
Simone Schwarzbart, on a évoqué hier la Guadeloupe, sa dimension métamorphique, comme on le dit, de certaines roches, sa dimension de merveille et de presque paradis, telle qu'elle a pu nourrir votre œuvre de romancière, dans Pluie et vent sur Tes lumes et miracles, dans Tigeant l'horizon, mais aussi telle qu'elle a nourri l'œuvre d'André Schwarzbart, votre mari, qui a donc signé La mulâtresse solitude, publié en 1972, et avec lequel vous avez écrit ensemble L'ancêtre en solitude, publié il y a peu. Aujourd'hui, le cycle continue de votre écriture commune, ce cycle antillais avec Adieu Bogota. Mais j'aimerais qu'on parle de vous dans cet entretien en qualité de femme. Il y a, dans Tigeant l'horizon, ces chimères qui traversent la cervelle d'enfant de la petite Hawa. Est-ce que vous étiez comme cela, Simone Schwarzbart, enfant, comme la petite Hawa, avec ces chimères? Quelles étaient les chimères qui traversaient votre cervelle?
J'ai toujours été une petite fille solitaire. Le soir, je m'asseyais dans une berceuse que ma mère avait fait faire pour moi. Et c'était ma berceuse au rêve. C'est-à-dire que le balancement du siège me servait de support pour partir ailleurs. Je n'ai jamais vécu une journée sans rêver, sans partir, sans quitter l'endroit d'où je me trouvais, d'où j'étais installée, pour partir vagabonder. C'est-à-dire que j'étais un gambadeur des mondes, déjà à cet âge-là.
Comme Tigeant l'horizon.
Comme Tigeant l'horizon, bien sûr. Je parcourais tous ces univers de rêves que les contes créoles m'apportaient. Parce qu'il y a beaucoup de contes que j'écoutais le soir quand j'allais en vacances chez mes grands-parents et qui étaient racontés par un oncle de mon père. Puisque mon père était militaire et qu'il n'était pas là, mon oncle se chargeait, lui, le soir de m'émerveiller. Il savait que j'attendais ces moments de racontage et il se faisait un vrai plaisir de venir déverser dans mes oreilles d'enfant tout un monde magique. J'en avais besoin parce que le monde tel que je le voyais ne me en tout cas tel que je l'appréhendais ne me satisfaisait pas. Et je me disais bien qu'il y avait quelque chose, il y avait un secret que les adultes peut-être partageaient entre eux et qui m'échappait. Et je m'imaginais ce que c'était en m'évadant dans des mondes que je construisais. Et dans lesquels j'évoluais. En fait, j'étais une grande rêveuse. Et alors que on pouvait me croire, ma mère pouvait me croire à table, en train de manger ou que sais-je, en train de prier, alors que en fait, j'étais dans d'autres pays et d'autres mondes. Je parcourais l'ailleurs déjà. Je pense que, en fait, cette fréquentation des mondes m'est venue aussi par cette espèce de mystère que j'avais autour de moi ou devant mes yeux, le mystère qui était la vie de mes grands-parents. Au moment des vacances, nous partions chez mes grands-parents qui habitaient Goyave, justement. Eh bien, ce Bordelais qui était mon grand-père, qui était négociant en vin de Bordeaux, et cette petite négresse qui était ma grand-mère, analphabète, mais tellement savante, en fait, cette vie que je voyais devant moi m'incitait au mystère parce que je ne comprenais pas ce que ces deux personnes faisaient ensemble. Et pourtant, c'est le plus beau couple que j'ai eu l'occasion de fréquenter. Ce sont des gens qui se sont aimés comme je n'ai pas souvent rencontré d'autres dans ma vie. Un amour envers et contre tous, envers la bêtise des blancs et des noirs, parce que les personnes, les Antillais, comme ma grand-mère, lui reprochaient d'avoir trahi son camp, et de son côté, les blancs reprochaient à mon grand-père aussi de s'abaisser à vivre avec quelqu'un qui n'était pas de son rang et qui n'était pas de son clan. Et pourtant, mon grand-père n'a pas passé une journée sans déclarer à ma grand-mère son amour. Devant moi, devant tous ses petits-enfants, tous les jours, il lui disait ça dans trois langues. Parce que ma grand-mère était une négresse anglaise. Elle venait d'Anguilla. C'est une petite île à côté de Saint-Martin. Donc elle parlait anglais. Elle parlait un anglais banane, comme on disait alors, pour se moquer de son anglais quand elle est arrivée. Il lui disait tous les jours, Marie, moi méo, Marie, je t'aime, Marie, I love you. Tous les jours, j'ai entendu cela de la bouche de mon grand-père et adressé à ma grand-mère. Et ma grand-mère n'en faisait pas état suffisamment, à mon sens. Mais elle était intérieurement, elle jubilait intérieurement. Elle ne le montrait pas, mais je sentais que vraiment, elle était emplie de ces petits mots-là de tous les jours. C'est cela qui m'a donné confiance, la fréquentation d'autres mondes que je voyais, parce que ma grand-mère, par exemple, mon grand-père s'asseyait sous la véranda tous les soirs, alors que ma grand-mère était analphabète, et il s'ingéniait à lui lire des romans, des nouvelles, toutes sortes de récits. Il lui lisait, et elle était très attentive à ses récits le soir. Et lui demandait toujours, Marie, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te lire? Et elle lui répondait toujours, vous savez, je voudrais vous demander si ce sont des choses que les personnages ont vécu. Est-ce que ils ont vécu cette histoire ou bien est-ce que c'est une invention? Alors, mon grand-père disait, il est tard, Marie, allons nous coucher.
Mais qu'est-ce que ça a pu signifier pour vous, petite fille de ces grands-parents-là, Simone Schwarzbart, de cette grand-mère analphabète qui se faisait raconter des histoires par son époux, qu'est-ce que ça a pu signifier pour vous de devenir écrivain, de vous mettre à écrire?
Pour moi, ça a été très important parce que je sentais bien que des femmes comme ma grand-mère et comme les autres femmes qui vivaient dans ce village, que ces autres femmes réclamaient de moi silencieusement que je parle d'elles, que je rapporte leur histoire, que je les comment dirais-je, que je ne les tue pas une deuxième fois, que les ayant vues, elles me priaient de parler d'elles, de rapporter leur vie, que leur vie que leur vie soit pérenne et passe à la génération suivante. Et je pense que elles, sans le dire explicitement, elles me demandaient un devoir de mémoire. Et en fait, de devenir écrivain et de parler de tout ce monde qui m'avait enchantée, parce que c'était des femmes qui inventaient la vie, qui inventaient... je parle des origines, je parle du tout début. C'est en quelque sorte, quand je regarde un peu ma vie, je me pense comme une sorte de Mathusalem. C'est comme si j'avais assisté à tout un monde et à toute, comment dirais-je, toute la trame du monde actuel que nous sommes devenus, nous les Antillais, toute cette trame-là, que je suis en fait le rapporteur, le scritaire, je suis juste la secrétaire de ces personnes qui ont été et qui méritent vraiment par leur vie, par leurs sentiments, par leur trajectoire, par leur survol. Parce que c'est en fait, j'ai appris qu'il fallait être des transformateurs, qu'il fallait faire d'une mauvaise donne une bonne donne, ou alors qu'il fallait arrêter l'espèce humaine. Si on continuait, nous autres femmes, à mettre au monde, il fallait justement que nos enfants, il fallait participer au monde, il fallait construire un monde, il fallait le poudrer, ce monde, il fallait vraiment l'organiser, l'humaniser. C'était leur message, c'était leur vie.
Mais le poudrer ce monde par l'écriture, ça équivoque aussi avec la poudre à canon. Si on pense à la mulâtresse Solitude et à sa participation à la révolte des esclaves et à l'explosion du fort de Matouba, si on pense aussi à ce qu'a pu dire et écrire une autre femme écrivain guadeloupéenne qui est Maryse Condé, qui a insisté sur sa rencontre avec des auteurs comme Michel Lacrosil ou Suzanne Lacascade, en disant que les femmes antillaise, écrivain, sont plus percutantes et peut-être plus critiques que les auteurs hommes. Il y a quelque chose de cela aussi pour vous, dans votre regard ?
C'est le rôle, le rôle même de la femme qui lui a été comment dirais-je, le costume que la femme a été obligée d'endosser a été un costume de battante, parce que qu'est-ce que c'est dans ces sociétés, l'homme avait perdu sa dignité d'homme. Quelle dignité voulez-vous avoir en face d'un maître qui peut vous enlever votre femme, vendre vos enfants à l'encan et ainsi vous priver d'être tout simplement un individu qui porte le nom d'homme. Ça n'est pas possible. Alors que la femme, elle, elle a été dans l'obligation de rattraper tout cela. La femme, c'est la femme, c'est par elle que s'est fait la transmission de la vie, la transmission aussi de la résistance en tant qu'être humain. On appelle en Guadeloupe le poteau mitan qui soutient la case, le poteau central qui soutient la toiture et qui soutient la case, l'armature. Et la femme a été obligée d'être ce poteau mitant dans la famille antillaise. Bien sûr que les femmes sont percutantes et magiciennes, j'ajouterai, parce que tout simplement, elles ont le don de faire cuire pour leur enfant une pierre et de la transformer en bouillon, parce que elles doivent absolument survoler l'histoire et en même temps la transmettre, cette histoire, à leur enfant, mais différemment.
Mais alors, à propos de ce profil nourricier et de ce profil piquant, voire dangereux de la femme, il y a, dit-on, un proverbe qui dit « La femme, c'est une châtaigne et l'homme, c'est un fruit à pain ». Je ne sais pas comment on le dit en créole, ici, il se dit en créole comme cela, Simone Schwarzbart, et comment est-ce qu'il faut l'entendre ?
Oh oui, femme, c'est châtaigne, homme, c'est fruit à pain. Il faut tout simplement l'entendre parce que quand un fruit à pain tombe de l'arbre, il s'éclate en mille morceaux et il n'y a plus rien au bout du compte. Alors que quand une châtaigne tombe par terre, elle repousse. Elle a des surgeons et elle donne des fruits. D'ailleurs, on dit bien l'arbre qui ne veut pas donner son fruit frappe-le du pied. Eh bien, c'est cela, en fait, que chaque femme essaye de faire de son enfant un arbre qui donne son fruit, un arbre qui n'est pas stérile et qui ne sert à rien. Donc, c'est déjà une tâche suffisamment ardue, quotidienne, banale et royale à la fois pour la femme. Selon une tradition orale, encore vivace à la côte sous le vent, du côté des pitons de Déhé, c'est vers l'âge de 11 ans que la petite fille de Bayan Gumé tourna en zombie corne. En ce temps-là, disent les vieux conteurs créoles, la malédiction était sur le dos du nègre et le talonnait sans arrêt. On se couchait avec tout son esprit pour se réveiller chien, crapaud de marée ou zombie, comme aujourd'hui l'on se réveille avec un cheveu blanc. Cela n'étonnait personne, et les gens disaient « Ah !» Ils disaient seulement « Ah !» Il y avait alors une grande variété d'ombres dans les îles à sucre. Nègres morts, animés par magie, nègre vivant qui avait chu dans un corps de bête et d'autres encore dont l'âme était partie, on ne savait où. Ces derniers portaient habituellement le nom de zombicorne. Ils avançaient comme des bœufs de labour et, leur tâche accomplie, s'arrêtaient tout d'une pièce. Ils restaient là, debout comme des bœufs de labour. Les zombicornes étaient tout simplement des personnes que leur âme avait abandonnées. Ils demeuraient vivants, mais l'âme n'y était pas. Solitude.
J'aimerais qu'on dise un mot de la couleur de peau Je crois que c'est Jean-Luc Bonniol qui a dit que la couleur est un maléfice. On parlait de la femme magicienne et un peu sorcière. Vous avez évoqué, Simone Schwarzbart, votre grand-mère paternelle qui était cette négresse et votre grand-père paternel qui était ce blanc négociant en vin venu de Bordeaux. Est-ce que vous vous sentez une négresse comme nombre de vos héroïnes, ou est-ce que vous vous sentez aussi, et là je cite l'épigraphe de votre roman que vous empruntez à Éluard, de votre roman Pluie et vent sur tes lumets miracles, vous vous sentez une négresse ou vous vous sentez une belle sans terre ferme, sans parquet, sans souliers, sans drap?
Je me sens les deux. Je me sens aussi autre chose parce que avec la rencontre d'autres mondes avec André, d'autres mondes que je me suis appropriés
André Schwarzbart,
avec
votre
André,
mari.
avec André Schwarzbart, avec mon mari. En fait, c'est la rencontre de deux mémoires, c'est la rencontre de deux mondes, de plusieurs mondes. Je suis en fait une négresse, mais je suis une négresse. Comment dire cela? En fait, ça ne recouvre pas ce que je suis. Je suis cela aussi, mais pas que. Je suis rouge, je suis blanche, je suis verte. Je ne sais pas ma quelle est a-t-on une couleur? L'âme a-t-elle une couleur? Le sang a-t-il est-il vert? Je ne pense pas
Vous êtes comme
que
Césaire, vous êtes une femme hindoue de Calcutta, vous êtes une femme pogrom?
complètement, mais complètement. Je suis tout cela et peut-être autre chose. On a tous un petit bout de cosmos en nous. On est une plante également. On est une algue. On est un lichen. On est tout cela.
Et vous êtes quelle plante alors?
Je suis une rose d'Afrique parce que elles sont tellement belles, ces roses d'Afrique. Il y a des arbres. Et pourtant, qu'est-ce que c'est qu'une rose d'Afrique? Eh bien, une rose d'Afrique appartient à un arbre. Ce n'est pas juste un tout petit buisson, un rosier d'Afrique. C'est un grand arbre qui porte des fleurs comme des chrysanthèmes, mais qui sont jaune soleil. Et l'arbre se couvre de fleurs, mais quand je vous dis couvre de fleurs, c'est littéral. Et toutes ces feuilles tombent et l'arbre n'est que fleurs. Donc, mais tout en haut, hein, à la cime, vous voyez comme des petits soleils qui sont accrochés comme cela à des branches. Et c'est cela que je voudrais en tout cas être. Peut-être que je ne le suis pas, mais j'aimerais être cet arbre-là. Oui.
Il y a aussi l'arbre de vos écrits, Simone Schwarzbart. Et dans cet arbre, si on vous évoquait comme une fleur à l'instant, il y a de nombreuses femmes qui apparaissent, les héroïnes sur plusieurs générations de vos romans, de ceux que vous avez écrits aussi avec André Schwarzbart. Et puis, il y a toutes ces femmes noires qui sont rassemblées dans votre encyclopédie en 6 volumes, Hommage à la femme noire, publié aux éditions Consulaires. J'aimerais que vous me disiez un mot de ces femmes-là qui sont pas uniquement des ancêtres imaginaires, comme dit Césaire dans Moi Laminaire, qui sont aussi des ancêtres justement dont on a trouvé les traces et dont peut-être vous aviez besoin aussi pour recoudre la vie, pour écrire l'histoire.
Mais c'est en fait cette encyclopédie est là à cause d'un manque de visibilité des ancêtres, justement. Mais des ancêtres réels, parce que lors de mon séjour en Afrique, au Sénégal, je me suis aperçu que mes frères et sœurs d'Afrique avaient en leur possession l'histoire qui leur est transmise par les griots, et l'histoire de toutes ces femmes qui étaient des reines à l'époque, des prophétesses, qui étaient ou même des femmes pharaons, comme certaines Hatshepsut, par exemple. Toutes ces figures de femmes qui me manquaient brusquement m'ont submergé, m'ont travaillé, m'ont obligé pendant des années à rêver d'elles sans pouvoir disposer de leur vie et de leurs éclats sur terre, des guerrières. Si Shaka a existé, c'est parce qu'il y a Nandi, sa mère. Il y a tant de héros africains qui en réalité sont des émanations d'héroïnes qui étaient leur mère ou leur tante ou leur grand-mère. Longtemps, cela m'a accompagné. Et puis un beau jour, nous avons décidé, André et moi. André m'a aussi aidé dans cette entreprise parce que c'est une entreprise qui a été lourde parce qu'il s'agit de l'histoire de 86 héroïnes depuis Lucie, la petite Lucie, qui est notre ancêtre à tous, jusqu'au plus grand mannequin de chez Dior ou de Saint Laurent avec Mounia ou enfin de personnages modernes. En fait, il y a toute une déclinaison d'histoires réelles qui peuvent vraiment nous accompagner, nous servir d'exemple et nous rendre fiers de ce que nous sommes. C'est en fait pour cela que j'ai eu vraiment l'appel de toutes ces personnes existantes et qui pourtant n'étaient pas à ma disposition et à la disposition de mes petites filles et de mes petites nièces. Donc voilà pourquoi j'ai écrit cette encyclopédie.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Martin Kenéen avec Simone Schwarzbart. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Frédéric Quérou, coordination Claire Poinsignon. Les émissions s'écoutent en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.